Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent. Enquête spirituelle. Le podcast. Rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Enquête spirituelle. Heureux de vous retrouver en podcast cette semaine. Bonjour Amy.
Bonjour Laurent, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi?
Bah très bien.
Alors on a fait un petit break là pendant les émissions, ça fait 3 semaines, comme vous l'a dit c'est un peu irrégulier cette année le format podcast, de avoir des émissions un peu toutes les 2 semaines, parfois toutes les semaines, parfois toutes les 3 semaines. On fait au maximum pour vous donner un maximum d'émissions. Bien évidemment, donc www.enquêtespirituelle.com pour écouter et réécouter toutes les émissions. Et vous avez également le podcast sur iTunes, donc vous abonnez à iTunes, c'est entièrement gratuit, vous cherchez Enquête spirituelle, vous allez tomber sur toutes les émissions et vous pouvez réécouter toutes les émissions depuis la saison 1, 2, 3 et même déjà les émissions de la saison 4 que vous avez directement aussi sur le site internet. Alors, on reçoit qui, Amy, aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous avons Denis Simon, donc conférencier français, que nous avons donc au téléphone aujourd'hui. Bonjour Denis.
Bonjour Amy, bonjour Laurent.
Eh bien, bienvenue dans cette émission Enquête spirituelle. Vous êtes déjà venu, vous êtes même déjà venu en conférence aussi. Vous allez revenir d'ailleurs au mois de février aussi. Et aujourd'hui, on va parler de la réincarnation, c'est ça, hein?
Voilà, c'est ça. Bah, tout d'abord, je voulais vous remercier de m'inviter de nouveau à votre émission Enquête spirituelle. Et puis, je souhaite aussi la bienvenue à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. J'espère qu'on va passer une heure passionnante sur ce sujet qui, à mon avis, est très intéressant et important.
Ah oui, c'est sûr que c'est très très important. Alors Monsieur Simon, donc juste pour rappeler aux gens, aux auditeurs qui ne vous ont peut-être pas encore écouté, d'ailleurs on les invite à réécouter les anciennes émissions que vous avez déjà faites. Donc vous êtes conférencier, mais vous avez fait d'autres choses aussi, hein, je crois.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, mon métier principal, c'est l'informatique et puis la gestion de grands budgets. Et puis, en fait, en plus de mon travail, depuis déjà plus de 25 ans, je fais des conférences bénévolement dans une société d'édition qui s'appelle les Éditions du Graal en France. Et pourquoi cette société d'édition? C'est tout simplement parce que j'ai trouvé là des ouvrages qui m'ont vraiment apporté beaucoup de connaissances sur le niveau spirituel. Et puis, disons que depuis tout jeune, voilà, je me posais des questions sur cette vie, qu'est-ce que nous faisons ici, on veut donner un sens à sa vie, on veut avoir un bon métier, une belle famille, des enfants qui aient un beau métier aussi, et je me disais, après tout ça il y a la mort, alors à quoi ça sert de vouloir donner un sens à sa vie si il n'y a aucun sens à cette vie, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis posé beaucoup de questions, et depuis 25 ans je fais des conférences tout simplement pour partager ce que moi-même j'ai trouvé. Voilà, c'est pas du tout pour convaincre ni pour convertir, c'est parce que voilà, je profite en plus du temps où je suis maintenant pensionné, enfin en retraite comme on dit en France, pour aller faire partager les connaissances que j'ai trouvées. Voilà.
C'est très bien, c'est exactement comme l'association le fait. D'ailleurs, on donne des pistes de réflexion, on ne le rappellera jamais assez, voilà, et chacun fait son propre avis derrière. Voilà.
Exactement.
Alors, comment vous êtes venu justement vous intéresser à la réincarnation? Parce que c'est un vaste sujet, on peut poser 100 000 questions là-dessus. Mais d'abord, plutôt, on va peut-être commencer à savoir qu'est-ce que la réincarnation pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout.
Voilà, en fait, la réincarnation, moi-même, quand j'étais tout jeune, j'étais plutôt matérialiste. Et la première personne qui m'a parlé de la réincarnation... je me suis dit vraiment, soit c'est un monsieur plaisantin, c'était un monsieur, soit c'est quelqu'un qui quand même est pas tout à fait normal. Et puis je suis parti et je me suis dit, celui-là je le rencontrerai plus jamais. Et puis en fait voilà, j'ai changé. Je donne maintenant des conférences sur la réincarnation parce que je pense que c'est un paramètre qui est très important dans l'existence et qui justement nous permet de comprendre le but et le sens de notre existence. Je voudrais juste donner une petite image. Vous savez, il y a encore 300 ans à peu près, un peu plus de 300 ans, on pensait que la Terre était plate. Ouais. Et puis que tout tournait autour de cette Terre, les autres planètes, les systèmes solaires, etc. Et il y a fallu Copernic au début, je crois, et puis Galilée dans les années 1600-1700, je crois, pour expliquer que la Terre n'était pas plate, mais au contraire qu'elle était ronde, et puis c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non pas l'inverse. Et en fait, ces deux personnages-là ont failli être brûlés sur la place publique en voulant expliquer ça. Et En fait, après, bien sûr, hein, il y a eu Newton, et puis on s'est bien rendu compte que c'était effectivement la Terre qui tournait autour du Soleil, et on avait une explication simple, eh bien, par exemple, des jours, puisque c'est la Terre qui tourne sur elle-même, et donc ça donne les jours pour 24 heures, la nuit et le jour. Ensuite, la Terre qui tourne autour du Soleil, ça donne les saisons. Donc, en fait, grâce à ces nouveaux repères, cette nouvelle explication, que la Terre n'était pas plate, etc., on a pu comprendre facilement qu'est-ce que c'était l'univers. Eh bien, c'est un peu l'image de la réincarnation. C'est-à-dire, tant qu'on occulte ce phénomène, pour moi, tant qu'on occulte ce phénomène de la réincarnation, on ne peut pas avoir un bon sens de l'existence. Et au contraire, la réincarnation amène une logique extraordinaire sur le but et le sens de notre existence. Voilà.
D'accord, c'est une belle image.
Donc, parce que si on se pose des questions sur notre vie, c'est-à-dire si on dit, voilà, la réincarnation n'existe pas, c'est d'ailleurs ce que je croyais au départ, on se pose quand même des questions, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a des individus, par exemple, qui naissent dans des pays riches, dans des pays prospères, où règne l'harmonie, etc., où les individus vont avoir la possibilité d'avoir une éducation, d'avoir un bon métier. Et au contraire, pourquoi y en a-t-il qui naissent dans des pays où règne la violence, des pays misérables, et puis là, la personne va pas avoir du tout l'occasion d'avoir d'éducation, et peut-être même de vivre pas beaucoup d'années, parce qu'il y a les guerres et les violences. Et comment expliquer qu'il y a des personnes qui naissent jeunes prodiges, comme par exemple Mozart, et puis d'autres personnes qui, pendant toute leur vie, n'arriveront pas à peut-être faire les tables de multiplication. Comment expliquer qu'il y a des personnes qui naissent en très bonne santé et puis d'autres qui sont toujours malades. D'autres personnes qui naissent sous une bonne étoile, tout leur réussit toujours. Et puis au contraire, d'autres qui sont régulièrement, on peut dire, éprouvés par le destin. Voilà, alors d'autres personnes qui naissent, qui meurent, je veux dire, très jeunes, des bébés même, qui meurent en naissant. Et puis au contraire, d'autres personnes qui vivent plusieurs dizaines d'années, des centaines d'années, une centaine d'années. Alors, si on se dit qu'il n'y a qu'une vie pour notre existence... on peut dire vraiment que là, on a une incompréhension totale vis-à-vis de ces injustices. Et on peut même dire que la vie, alors à ce moment-là, est quelque chose d'absurde. C'est presque le jeu de la roulette russe. C'est-à-dire, tant mieux si on est dans un pays riche, tant mieux si on est en bonne santé, et puis tant pis, ma foi, si on est en mauvaise santé. Et alors, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire, on se dit, mais où est la justice dans ce monde? Quel est le sens? Puisque ça n'a vraiment aucun sens. Voilà, donc ne croire qu'en une vie, en fait... on peut pas, c'est comme si on croit que la Terre est plate, on peut pas avoir l'explication de tout ce qui se passe autour de nous. Voilà. Et donc, en fait, la réincarnation, donc, nous permet au contraire de retrouver une logique extraordinaire du but et du sens de l'existence.
D'accord. Parce que pour parler de la réincarnation, justement, faut peut-être partir de la base, c'est que, vous allez peut-être mieux nous l'expliquer, mais l'âme, ou l'esprit, on l'appelle comme on veut, vient s'incarner dans le corps, c'est bien ça, hein.
Voilà, c'est ça. On pourrait prendre, effectivement, on va prendre les choses à la base. Alors, pour prendre les choses à la base, prenons le mot réincarnation. Mmh. Quand on analyse un tout petit peu rapidement ce mot, en fait, il est composé de trois parties, yen, carnation. Et en fait, carnation, ça veut dire quoi? Ça veut dire chair. Le préfixe avant un, yen, ça veut dire dans. Et incarnation, ça veut dire quelque chose qui vient dans la chair. Mmh. Et puis, si on prend le préfixe réincarnation, ça veut dire de nouveau. Donc, en fait, rien que ce mot-là, déjà, il nous explique ce que c'est que la réincarnation. C'est quelque chose qui vient de nouveau dans la chair. Voilà. Et alors, ce quelque chose, vous l'avez dit, je pense effectivement que c'est notre moi. Il y en a qui l'appellent notre moi, d'autres notre individualité, d'autres notre conscience, d'autres qui l'appellent l'âme, d'autres qui l'appellent l'esprit. Alors, je voudrais justement, dans cette émission, apporter mon explication par rapport à l'esprit, l'âme, la conscience, qu'est-ce que c'est exactement, et voir donc que cette entité qui est nous, eh bien, vient effectivement plusieurs fois s'incarner, c'est-à-dire prendre une enveloppe de chair et de sang sur cette terre tout au long de son existence.
D'accord. Peut-être une petite question, parce qu'on parle de réincarnation. Maintenant, est-ce qu'il y a une toute première fois ? Est-ce qu'il y a une première fois où on s'incarne pour la première fois et ensuite c'est cyclique ou alors c'est tout le temps perpétuel ?
Alors, je pense que pour moi, en tout cas, je pense que oui, bien sûr, il y a une première fois. Et il y aura, je pense, une dernière fois aussi. C'est-à-dire que pour moi, la réincarnation n'est pas illimitée. Pourquoi ? C'est tout simple, hein. Il suffit de regarder autour de nous, c'est-à-dire pour se réincarner, il faut avoir un corps de chair et de sang. Et puis, se réincarner, c'est se réincarner dans la matière, c'est-à-dire sur cette terre. Et tout le monde sait que la terre, eh bien, elle a elle a une durée de 4,5 milliards d'années, comme le système solaire, comme le soleil. Et les scientifiques nous disent qu'on est à peu près à la mi-temps de la durée de ce système solaire. C'est-à-dire qu'il reste encore 4,5 milliards d'années. Alors, vous me direz, ça fait quand même encore pas mal, hein. Et donc, en fait, on voit que la réincarnation n'a commencé qu'à un certain moment et qu'elle se terminera, qu'il n'y aura plus de possibilité de réincarnation à un certain moment puisque la Terre va disparaître à un certain moment. Donc la réincarnation, en fait, alors déjà pour donner presque la fin de l'émission, mais pour moi la réincarnation c'est donc la possibilité de donner à l'esprit humain de venir s'incarner sur cette Terre un peu comme pour un enfant. On lui donne la possibilité pendant une dizaine d'années ou une quinzaine d'années d'aller plusieurs fois suivre des classes. C'est-à-dire, il va à la maternelle, après il va au cours de moyen, au cours supérieur, etc. Et donc, la réincarnation, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire, l'être humain a la grâce de pouvoir venir sur cette terre. Et en fait, cette vie sur cette terre qui dure, un maximum de 100 années environ, eh bien, c'est une classe, c'est une école et on est là pour apprendre, pas apprendre des choses intellectuellement, apprendre à devenir un être humain, à devenir humaniste. Bien sûr qu'il faut apprendre aussi des choses intellectuelles parce que pour devenir médecin, pour devenir ingénieur, il faut apprendre il faut prendre des cours, il faut aller à l'école. Mais ça, ce sont des outils. Le but, c'est vraiment d'acquérir cet humanisme qui est le propre de l'esprit humain.
D'accord. Et est-ce que justement, quand on se réincarne ou qu'on s'incarne, je veux dire, est-ce qu'il y a un choix qui est fait au départ volontaire de la personne qui s'incarne ou est-ce qu'on nous envoie comme ça sur Terre avec une mission toute faite, par exemple ?
Alors, je pense que c'est très, pas compliqué, c'est complexe. C'est un peu comme sur Terre, quand on voit notre vie, il y a beaucoup de paramètres qui fait qu'on est dans tel pays, dans telle profession, etc. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on est beaucoup aidé, on est entouré de guides, d'aides sur Terre, mais aussi dans l'au-delà. Et en fait, il y a à l'origine, l'impulsion de l'esprit humain, la caractéristique de l'esprit humain, qu'on peut appeler l'âme, qu'on peut appeler la conscience aussi, hein, on verra tout à l'heure la définition que j'en donne. Cet esprit humain, il a donc pour mission de venir apprendre des choses sur cette terre, et donc il est entouré, il est guidé pour avoir les meilleures conditions, par exemple quand on s'incarne sur cette terre, avoir les meilleures conditions pour arriver, pas à nos fins, mais pour évoluer, donc avoir les meilleurs paramètres. Donc au départ, l'esprit humain, il est tout jeune, on peut dire c'est un peu comme un bébé, c'est-à-dire il est un peu inconscient. Voilà, on est parti, on peut dire à l'état inconscient. Et puis on s'est incarné une fois, ensuite on a pris des décisions, on a pris un certain chemin, et puis ensuite on retourne dans l'au-delà, on va voir un peu ça en détail, on revient, et puis on s'affirme, on commence à prendre d'autres décisions, on prend des objectifs, et petit à petit donc se forment des fils, parce que toutes nos décisions, tous nos actes, toutes nos pensées, en fait, tissent des choses par rapport à des souhaits, des envies. Et ce sont ces tissages, ces liens qui nous conduisent automatiquement vers certaines choses ensuite. Il y a une loi qui s'appelle la loi du choc en retour, la loi de rétroaction, c'est-à-dire l'homme récolte ce qu'il sème. Et en fait, à chaque fois qu'on prend une décision, ça amène des conséquences. C'est ce qui explique d'ailleurs le destin. Alors donc petit à petit, l'esprit, il se conduit lui-même par ses décisions vers des certains choix, et après il a une certaine route qui devient de plus en plus claire devant lui.
C'est ce que je pense aussi.
Tout à fait. Et voilà, justement, avant d'aller plus loin, on va marquer une première pause dans cette émission Enquête spirituelle. On se retrouve dans quelques petits instants. À tout de suite.
Enquête spirituelle. Vous aimez la lecture ? Procurez-vous un de nos magazines. Découvrez des dizaines d'articles avec des auteurs de tous horizons, ainsi que de nombreux témoignages. Cliquez sur www.enquête-spirituelle.com et rendez-vous dans la boutique. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle, c'est l'émission en podcast téléchargeable sur notre site www.enquête-spirituelle.com avec Amy et Laurent.
De retour dans cette émission Enquête spirituelle, aujourd'hui nous recevons Denis Simon, conférencier français pour la réincarnation. Alors Denis, vous vouliez nous expliquer votre définition, votre pensée sur l'esprit, l'âme, la conscience.
Voilà. Alors, en fait, hein, je prends toutes ces notions par rapport à un ouvrage qui s'appelle « Dans la lumière de la vérité » et qui est édité aux éditions du Graal, dont j'ai parlé tout à l'heure et où je travaille bénévolement. Alors, il y a un auteur allemand, effectivement, qui a écrit cette œuvre, qui s'appelle Abdruschin, et puis qui a donné des définitions vraiment très claires par rapport à ce qu'est l'esprit, à ce qu'est l'âme, ce qu'est la conscience. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. En fait, il explique que la réalité de l'être humain, c'est l'esprit. Voilà, ça c'est notre réalité. Nous sommes partis à un certain moment à l'état de germe d'esprit. Un peu, pour donner une image, comme un grain de blé. Voilà, on prend un grain de blé au creux de sa main, et puis ce grain de blé, on veut qu'il pousse, qu'il devienne un bel épi de blé. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on le jette dans la terre, le paysan il fait ça, et puis le grain de blé il doit se débrouiller tout seul, et c'est lui qui doit ressortir de cette terre à l'état de bel épi, à l'état épanoui de bel épi de blé. Eh bien, l'esprit humain, c'est un peu ça, si on peut prendre cette image. C'est-à-dire que l'esprit humain, il est descendu dans les différents plans de la création. Et donc, à un certain moment, cet esprit humain, il s'est retrouvé incarné sur Terre, un peu comme le grain de blé se retrouve dans la Terre. Et c'est pour ça que le grain de blé, il ne peut pas pousser ailleurs, parce qu'il a besoin de cette matière pour se renforcer, de la pluie, du vent, etc. Et petit à petit, il pousse, et puis voilà, il va sortir. Eh bien, l'être humain, il a besoin, l'esprit humain a besoin de se confronter à cette matière pour prendre des forces, pour qu'il ne soit plus un germe d'esprit, mais qu'il soit vraiment un esprit accompli, un adulte accompli, un peu comme un enfant. Voilà, l'enfant, il est d'abord bébé, il prend des forces, il va à l'école, il y va plusieurs fois, et après, il devient un adulte accompli. Alors, l'esprit, voilà, c'est, on peut dire, quelque chose de totalement immatériel, qui n'a rien à voir du tout avec la matière. C'est quelque chose d'immortel. Donc, je pense que nous avons effectivement l'éternité devant nous. Et cet esprit, il vient dans ces plans de la matière tout simplement pour apprendre. Et donc, au fur et à mesure qu'il descend dans ces différents plans de la création, il y a des plans de subtils, il y a des plans, voilà, les plans matériels. Il y a plusieurs sortes de plans matériels. On parle des plans astrales, etc. Et donc, à chaque fois qu'il descend dans un plan, cet esprit, il se couvre d'une enveloppe correspondant à la nature de ce plan. Vous savez, quand on est un scaphandrier, quand on va dans la mer, ben on se couvre d'un scaphandre, voilà, pour être au mieux possible dans cet élément. L'esprit humain, quand il descend dans un plan de l'au-delà, voilà, il se couvre d'une enveloppe subtile, invisible pour nous. Et puis ensuite, quand il vient s'incarner sur cette terre, eh bien, il se recouvre d'une enveloppe de chair et de sang qui s'appelle le corps physique. Donc, en fait, pour moi, donc, nous sommes un esprit humain recouvert de cette enveloppe. Et cette enveloppe, elle sert d'abord à protéger l'esprit, comme le scaphandrier sert à protéger le scaphandre sert à protéger le scaphandrier. Et donc, le corps de matière sert à protéger cet esprit, mais en même temps, c'est l'élément qui va lui permettre d'agir sur cette terre. Mmh. C'est-à-dire, sans corps, bah, on le sait, hein, quand on est mort, on peut plus agir sur cette terre. Mais par contre, on n'a plus que le corps subtil et on est dans l'au-delà. Donc, l'esprit humain, c'est cette réalité qui est nous, qui est notre conscience. Il y a notre volonté, il y a nos émotions dans cet esprit. Voilà, c'est vraiment de là que par toute notre individualité, nos talents, voilà, c'est vraiment dans, c'est comme le grain de blé, voilà, sont dans cet esprit. Et cet esprit se recouvre d'enveloppes au fur et à mesure qu'il descend dans les différents plans. Et donc, dans le plan de matière, il devient un être humain. Alors, quand on prend, quand on parle de l'esprit et de l'âme, quelle est la différence pour cet auteur Abdrushin dont j'ai parlé tout à l'heure? Eh bien, tout simplement, l'esprit, c'est le noyau, c'est la réalité de l'esprit, de l'être humain, c'est la seule réalité. Et ensuite, on a dit, cet esprit se recouvre de différentes enveloppes subtiles, invisibles. Et en fait, l'âme, c'est tout simplement le noyau, l'esprit recouvert de toutes ces enveloppes subtiles, invisibles. D'accord. Et donc, l'âme, c'est-à-dire le noyau, l'esprit, plus les enveloppes invisibles, lorsqu'elle est recouverte de la dernière enveloppe de chair et de sang, eh bien, ça constitue l'être humain tel qu'on peut le voir sur Terre. Alors, quand on parle de la conscience, par exemple, quand on parle des NDE, on a fait une émission, je crois, ensemble sur les NDE, eh bien, les docteurs ou les gens, les expérienceurs, c'est-à-dire ceux qui vivent des NDE, parlent de la survie de la conscience après la mort. Alors, on peut tout simplement dire que c'est la survie de l'esprit. Voilà. On a un peu chacun ses termes, mais pour moi, la conscience, l'esprit, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand il y a une expérience de NDE, c'est-à-dire quelqu'un qui a un grave accident et puis qui sort de son corps, qui va dans un tunnel et dans les différents plans de l'au-delà, eh bien, c'est tout simplement, en fait, son âme, c'est-à-dire son esprit avec les enveloppes subtiles invisibles, son âme qui s'échappe à un certain moment du corps parce qu'il est presque mort, donc le lien est très fin entre l'âme et le corps, et à ce moment-là, l'âme commence à mettre un pied dans les plans de l'au-delà, et c'est là que la personne donc vit des expériences qu'elle raconte, donc dans les témoignages de NDE. Donc voilà, donc la conscience, on peut appeler ça l'esprit si on veut, l'âme, c'est l'esprit avec ses différentes ces différentes enveloppes invisibles. Voilà pour moi les définitions de l'esprit, l'âme et la conscience.
D'accord.
D'accord. Et vous parlez aussi beaucoup de l'au-delà. Pour vous, c'est quoi l'au-delà?
Alors, l'au-delà, c'est pour moi, donc on pourrait imaginer ça comme une vaste halle ou un vaste endroit, un enclos où on met toutes les âmes une fois qu'elles sont mortes. En fait, l'au-delà, pour moi, c'est pas tout à fait ça. L'au-delà, c'est un endroit vraiment très structuré. Quand on regarde la Terre, quand on regarde l'univers, c'est vraiment structuré et c'est une mécanique qui fonctionne comme une horloge, quoi. Hein. Quand on voit les astrophysiciens, ils ont des formules extraordinaires et tout. Les planètes suivent des courbes vraiment mathématiques, etc. L'au-delà, c'est pas quelque chose de mystique ou d'ésotérique. Pour moi, c'est quelque chose de très concret, de très structuré. Alors, juste pour résumer, on peut dire que l'au-delà est constitué de nombreuses demeures. D'ailleurs, dans la Bible, on trouve cette phrase de Jésus, je crois, à un certain moment, où il dit « Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père ». Et puis, il y a un livre aussi sur Edgar Cayce qui s'appelle « De nombreuses demeures », qui a été signé par Gina Serminara. Et « De nombreuses demeures », ça veut dire que l'au-delà est constitué donc de nombreuses régions, de nombreux plans. Et ces plans vont des plans les plus lumineux aux plans les plus sombres. On peut parler même d'enfer. Et quand on parle du purgatoire, moi je suis d'origine de religion catholique quand j'étais jeune, eh bien ce purgatoire, on peut imaginer que ce sont les plans intermédiaires. C'est-à-dire qu'au moment du décès, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'esprit tout simplement est relâché par le corps. Parce qu'en fait, le corps, il tient l'esprit par un espèce de magnétisme. Et donc, l'esprit est relâché, et puis le magnétisme du corps, donc comme le corps décède, comme le corps meurt, le magnétisme est coupé, donc c'est comme une grue avec un électroaimant. Quand on coupe le courant, l'électroaimant ne fonctionne plus et il lâche la ferraille, par exemple. Eh bien, l'esprit, quand le corps décède, il n'y a plus ce magnétisme.
L'esprit. Certains appellent, enfin, je me permets de vous couper, parfois allez-y. On en parle aussi, c'est du cordon d'argent ou du fil d'argent.
Voilà, il y a aussi ça. Voilà, il y a aussi le cordon d'argent. d'argent qui sert de lien pendant encore un certain temps. Et il y a aussi quand même cette irradiation du corps, parce qu'en fait le corps il vit par lui-même, hein. Le sang qui coule dans mes veines, c'est pas moi qui le contrôle, la digestion, etc., le cœur qui bat, tout ça je ne contrôle absolument rien avec mon intellect, ça fonctionne tout seul. Et toute cette mécanique qui fonctionne tout seul produit une espèce de vibration, d'énergie ou de magnétisme, voilà, on peut l'appeler un peu comme on veut, qui maintient l'esprit, parce que l'esprit, on peut pas l'accrocher, il est immatériel, mais justement il y a une vibration qui se fait et qui maintient l'esprit donc accroché au corps. Mais en même temps, il y a effectivement ce cordon d'argent qui relie le corps astral, qu'on parle, parce que le corps est composé de plusieurs enveloppes. Cette âme, elle a plusieurs enveloppes, et une des dernières enveloppes s'appelle notamment le corps astral. Et au moment du décès, eh bien, effectivement, l'esprit commence à quitter le corps. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans les expériences de NDE. Les personnes sortent de leur corps, elles voient leur corps, elles voient l'accident dont elles viennent, qu'elles viennent d'avoir, par exemple. Mais elles restent, parce qu'elles ne meurent pas, puisqu'elles reviennent, elles racontent ce qui s'est passé, mais elles restent quand même, cet esprit, cette âme, reste reliée par le cordon d'argent dont vous parliez tout de suite. Tandis que dans le décès, eh bien là, l'esprit commence à quitter le corps, et donc là, la personne est à côté de son corps, hein. Quand une personne décède, il faut savoir qu'elle est à côté de son corps, qu'elle est encore capable d'entendre tout ce que vous lui dites. Donc il faut au contraire plutôt la rassurer, prier pour elle, avoir des belles pensées. Et puis elle reste quand même pendant un certain temps, pendant quelques jours, ça dépend de la maturité spirituelle de l'individu, elle reste, cette personne, son âme reste reliée par le cordon d'argent donc au corps. Et une fois que le cordon d'argent se rompt, c'est là que commence la décomposition du corps. Voilà. Alors donc, au moment de la mort, je disais, on va donc dans un plan de l'au-delà, dans un des plans de l'au-delà, des très 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 nombreux plans. Alors, on pourrait dire, mais dans lequel on va, dans un plan lumineux ou d'un plan sombre? Ça dépend tout simplement de nous, voilà, de notre esprit. Et en fait, en fonction de qui nous sommes, ce que nous avons fait, de notre bienveillance, ou au contraire de notre malveillance, de notre violence, ou au contraire de notre bonté, etc., ça donne une certaine coloration, une certaine vibration à notre esprit, ça donne même une certaine densité spirituelle. On parle, vous savez, des fois du poids de nos fautes. Et en fait, effectivement, nos fautes ont un certain poids qui nous plombe et qui, au moment de notre décès, vont nous amener plus ou moins bas dans ces différents plans. Et en fait, nous allons tout simplement, au moment de notre mort, retrouver un plan, et donc un plan où il y a déjà des individus, des esprits humains, des âmes, et donc on va retrouver des âmes qui sont totalement en affinité avec nous, qui ont exactement la maturité spirituelle que nous portons. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a donné beaucoup d'amour dans sa vie, qui, je sais pas moi, un musicien par exemple, qui a donné beaucoup d'amour avec sa musique, va se retrouver, enfin je caricature un peu, va se retrouver avec d'autres musiciens qui vont donner beaucoup d'amour aussi. Et alors lui, cet individu-là, cette âme, elle va se retrouver dans un milieu très harmonieux où elle va continuer son évolution, parce que dans l'au-delà nous continuons notre évolution, et elle va continuer son évolution dans l'harmonie. Au contraire, si je suis un bandit, voilà, j'ai fait beaucoup de mal autour de moi, je vais me retrouver avec les mêmes bandits que moi, dans des plans très sombres, très très lugubres, et là je vais vivre la souffrance au contraire. Mais cette souffrance, c'est tout simplement celle que j'aurai infligée aux autres. Donc on retrouve toujours la justice parfaite, l'amour parfait dans ces lois de la création qui gèrent l'ensemble de la création.
D'accord. Et donc une fois de l'autre côté, comment se passe la nouvelle incarnation lorsqu'on décide de revenir?
Alors,
déjà, est-ce que c'est nous qui décidons de revenir?
Alors, on décide, disons plutôt que c'est comme quand on décide de mourir, on décide pas, hein, c'est-à-dire on décide et on décide pas, c'est-à-dire si je prends plein de tabac, plein de, enfin voilà, que j'ai une mauvaise alimentation, que je fais tout ce qu'il faut pas, effectivement je décide de partir un peu plus tôt, mais la mort je la décide pas tout à fait. Et la nouvelle réincarnation, je pense pas qu'on la décide. Par contre, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit apporte des éléments qui vont, comment je veux dire, donner une direction vers cette réincarnation. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je fais, il va m'être accordé une possibilité, par exemple, de réincarnation à un certain moment. D'accord. Et donc, je disais tout à l'heure, on est entouré en permanence de guides, d'aides dans l'au-delà, et toujours avec beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de rigueur et beaucoup de justice. La justice parfaite, ça fait partie de ces lois. Et donc, en fait, en fonction de ce que je suis, en fonction de mon évolution, en fonction aussi, parce que pour qu'il y ait réincarnation, il faut qu'il y ait un corps qui puisse recevoir cette âme. Donc, et puis en plus, ce corps, il faut qu'il corresponde à qui je suis. C'est-à-dire que il faut que la famille qui va donner naissance à ce corps, eh bien, elle soit en affinité avec moi. Il faut que les événements que vont vivre cette famille soient en accord avec ce que j'ai besoin de vivre. Donc, en fait, tous ces guides, toutes ces aides qui sont autour de moi, il y a beaucoup d'êtres lumineux. On peut dire, enfin, pour moi, je vois ça comme ça. Nous prépare un chemin de vie qui va tout d'abord nous faire vivre ce que nous devons récolter. L'homme doit récolter ce qu'il sème, mais en même temps qui va aussi, ça c'est la loi de justice, on récolte ce qu'on sème, mais aussi par amour, ce chemin de vie va nous apporter tous les éléments dont nous avons besoin pour évoluer au mieux possible de nos talents. Donc en fait, quand on dit « on choisit », je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Je pense qu'un chemin de vie nous est préparé en fonction de qui nous sommes. Et ce chemin va comporter tout d'abord des événements qui vont être le résultat de ce que j'ai fait moi-même. Parce que à chaque jour, je fais des choses. Et donc, il y a des retours karmiques qui doivent venir à ce moment-là, en bon, en bien ou en mal. Hein. Et donc, ma prochaine réincarnation, elle va... me faire vivre ces différents retours, mais en plus il n'y a pas que des retours, il y a en même temps toutes les nouvelles décisions que je vais prendre dans cette vie qui vont m'apporter tous les éléments que j'aurai choisi à ce moment-là.
D'accord.
Eh bien, c'est très passionnant tout ça. Avant d'aller plus loin, Monsieur Denis Simon, on se retrouve dans quelques petits instants. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission Enquête Spirituelle.
Vous appréciez cette émission ? Denis Simon sera en conférence le dimanche 16 février dès 15h à Fresnes-lès-en-Vin en Belgique, à deux pas de la frontière française. En seconde partie, expérience médiumnique avec médium. Rendez-vous à Fresnes-lès-en-Vin, salle Magritte. Plus d'infos sur notre site www.enquête-spirituelle.com. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent. Enquête spirituelle.
De retour dans cette émission Enquête spirituelle avec Monsieur Denis Simon qui nous parle aujourd'hui de la réincarnation. Et pour rappel, l'émission, vous pouvez bien sûr la réécouter autant de fois que vous voulez via le site internet et via le podcast www.enquête-spirituelle.com et sur iTunes. Alors, donc on parle de la réincarnation. Donc on était à l'étape de l'âme, donc qui choisit un petit peu son chemin avant de revenir donc de l'au-delà sur la Terre. Et justement, on va un petit peu approfondir là-dessus. Est-ce qu'on a des missions choisies? Est-ce qu'on nous impose des choses? Est-ce que c'est nous qui sommes libres de choisir la famille, le pays, où on va, pourquoi pas même la planète? On ne sait jamais.
Alors, tout d'abord, je veux dire, la caractéristique déjà de l'esprit humain que nous sommes tous, enfin, à ma conviction, on peut dire que nous avons tous le libre arbitre. Voilà, c'est une caractéristique fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, parce que souvent on se dit, est-ce qu'on choisit ou est-ce qu'on choisit pas dans sa vie ? Parce qu'il y a le destin. Alors tout le monde pense qu'on est dirigé par ce destin. Bon, je pense que non, on n'est pas dirigé par notre destin. Par contre, on doit l'accomplir. C'est-à-dire que nos choix, nous faisons ce que nous voulons. Mais nos choix amènent des conséquences. Et donc on doit assumer ces conséquences. Ça, c'est des lois fondamentales dans la création. L'homme récolte ce qu'il sème. Donc on a la liberté de décision, mais ensuite, de toute façon, on doit récolter ce que nous avons semé, en bien ou en mal. Et donc ça, ça s'appelle la responsabilité. Voilà, l'être humain est libre, mais il est responsable. Alors donc, quand il est dans l'au-delà, alors, est-ce qu'il choisit sa famille ? Donc, je disais tout à l'heure, pas vraiment choisir. C'est-à-dire que son chemin de vie, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait, l'amène dans de certaines circonstances. Je vais prendre un cas caricatural, vraiment. Et puis, c'est vraiment une invention de ma part. Je prends quelqu'un, par exemple, qui a été alcoolique sur cette terre, par exemple, et puis qui a fait souffrir pas mal de monde du fait de son alcoolisme, qui est devenu violent avec sa femme, avec ses enfants, etc. Ben, je suppose que cette âme, dans l'au-delà, d'abord, elle va comprendre toute la souffrance qu'elle a induite autour d'elle, et donc elle va, je pense, avoir beaucoup de remords, et en fait, elle va pas choisir, par exemple, de s'incarner, dans une famille d'alcooliques pour voir comment ça fait, parce qu'elle n'aura pas du tout envie, sans doute. Mais du fait des lois de la création, notamment l'homme récolte ce qu'il sème, en fait, cette âme va être, du fait de ses décisions, du fait de son alcoolisme, elle aura tissé plein de fils avec ce mauvais comportement. Et ces fils, en fait, c'est ce qui sert de lien entre nous. On a des fils d'affinité. Vous savez, automatiquement, quand on voit quelqu'un, on se sent bien ou pas avec lui. Eh bien, ce sont ces différents fils que cette personne a tissés, nous aussi, et tout d'un coup, ces fils, ils s'entrecroisent très bien, donc on a une affinité. Eh bien, en fait, ces fils, quand l'âme est dans l'au-delà, ces fils, tout d'un coup, se sentent bien, entre guillemets, en affinité avec peut-être une famille d'alcooliques, et cette âme va se réincarner, donc, dans cette famille d'alcooliques. Alors, pourquoi ? C'est pas pour une punition, c'est pas pour dire, t'as fait ça, tu vas voir, tu vas récolter ça. C'est pas du tout. Il n'y a pas de punition. Ce sont les hommes qui ont inventé les punitions, les tortures, mais les lois de la création n'ont pour but que la justice parfaite et l'amour parfait. Et en fait, cette âme va devoir, par exemple, vivre dans une famille alcoolique, tout simplement pour qu'elle puisse comprendre qu'est-ce que c'est qu'une personne alcoolique et quelles conséquences ça a. C'est-à-dire qu'elle va vivre sur elle-même, par exemple un père, qu'elle va avoir un père alcoolique, elle va le vivre sur elle-même et là, elle va vraiment comprendre. Vous savez, tant qu'on n'a pas vécu une souffrance, le deuil de ses parents ou je ne sais quoi, on n'est pas très capable de le comprendre. Mais une fois qu'on a vécu des grandes souffrances, un divorce ou je ne sais quoi, tout d'un coup, on apporte beaucoup plus d'attention à ceux qui vivent la même chose parce qu'on l'a vécu. Et voilà, donc ce chemin de vie qui nous est construit, en fait, c'est quelque chose qui va nous apporter de la compassion, qui va nous apporter une expérience qui nous est utile, parce que si nous avons été alcooliques dans notre vie intérieure, c'est parce qu'on n'a pas compris que c'était pas bon. Et donc là, on va le vivre. Mais en même temps, donc je disais, ce chemin de vie, il doit nous apporter aussi des possibilités d'évolution. C'est-à-dire qu'il va m'être donné des circonstances où je vais avoir la possibilité de travailler mes talents. Parce qu'en fait, le but de la vie sur Terre, c'est pas de récolter ce qu'on a semé et puis de tourner autour de ça. Non, c'est de développer ses talents, de devenir de plus en plus humaniste, de devenir de plus en plus bienveillant, d'avoir de plus en plus de qualités pour apporter ses talents à soi-même et aux autres. Donc, sur ce chemin, donc choisit-on sa famille, je dirais non. Du fait des lois de la réincarnation, du fait des lois de la création, un chemin de vie va s'établir devant nous, qui, par amour, qui dépend de ce que nous avons fait, mais en même temps qui dépend des talents que nous avons à évoluer, à cultiver. Alors, est-ce que nous avons une mission ? Alors, je pense que nous avons tous une mission. Alors, il faut faire attention à ce terme, parce que quelquefois, on se dit, oh là, j'ai une mission, ou il a une mission. Alors, ça fait un peu un côté grandiloquent. En fait, si vous voulez, le menuisier, il a une mission, c'est de faire des belles charpentes. Le boulanger, il a une mission, c'est de faire un bon pain. Et puis, moi, je suis très content quand le boulanger, il fait un bon pain. Je pense qu'on a tous, sur cette planète, en tant qu'esprit humain, la mission de développer nos talents. Et nous avons tous des talents. En fait, chaque être humain est un peu comme une fleur dans un bouquet de fleurs. Nous avons tous des talents au fond de nous-mêmes que je pense nous n'avons pas encore exploité à 1%. Parce que pour l'instant, on se bat dans une vie où on voit tout ce qui se passe autour de nous. C'est la crise, il faut se battre pour gagner son pécule, pour pouvoir vivre. Mais on n'en est pas encore à la grande harmonie entre les êtres humains où tout le monde va faire ses talents. Donc, va cultiver ses talents. Donc, en fait, donc on doit... on a... La mission pour chaque être humain, oui, on en a une, mais tout le monde en a une, c'est vraiment de développer ses talents, tout simplement pour d'abord pour être heureux, hein. Quand quelqu'un par exemple devient médecin, bah il est heureux de rendre service aux autres, et puis il va devenir de meilleur en meilleur. Donc après ça va être le boulanger, ça va être voilà, chacun dans sa profession a beaucoup de choses dans son entourage. On n'est pas obligé non plus d'avoir une profession. Chacun autour de lui peut développer des qualités qui vont rendre service aux autres.
D'accord. Et donc, on parlait de vie antérieure. Pourquoi on ne se souvient pas de nos vies antérieures ?
Alors, ça, c'est une question, effectivement, qui fait que les gens disent « Oh là là, la réincarnation, ben non, c'est une blague, parce que si on s'était réincarné, on s'en souviendrait. » Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'il y a des personnes qui s'en souviennent. On voit des jeunes enfants, par exemple, qui ont des réminiscences de vie antérieure. Et on a déjà vu, d'ailleurs, en France, en Belgique aussi, je pense, des émissions à la télévision sur des jeunes enfants qui racontent qu'ils ont vécu telle ou telle chose. Alors, généralement, ça se passe à l'âge de 4 ans, à peu près. Alors, bien sûr, souvent les familles n'y font pas attention ou pensent que l'enfant affabule, mais je pense qu'au contraire, il faut l'écouter avec intérêt, parce que quelquefois, donc, les enfants ont des flashs comme ça de leur vie antérieure et ils disent, je sais pas, moi je m'appelle pas Fernand, mais je m'appelle Henri, ou ma maman, elle s'appelle pas comme ci, mais s'appelle comme ça. Et en fait, c'est des réminiscences de vie antérieure. Alors, je voudrais signaler justement un livre qui a été écrit par un Américain qui s'appelle Ian Stevenson, qui a vécu entre 1918 et 2007. Et ce psychiatre, en fait, il s'est passionné pour justement ces récits de réminiscences antérieures. Et il a fait des enquêtes très scrupuleuses. Et puis, en fait, il s'est rendu compte, lui, je pense qu'il croyait pas tellement non plus, pas particulièrement à la réincarnation, mais il a écrit un livre, par exemple, qui a été traduit en français, qui s'appelle 20 cas sur suggérant le phénomène de la réincarnation. Donc, suite à ces enquêtes, il se disait qu'on ne pouvait qu'en déduire qu'effectivement, ces enfants n'ont pu que réellement vivre cette vie antérieure qu'ils décrivent, parce qu'ils retrouvaient soit la famille, ils retrouvaient le métier, ils retrouvaient la tombe de la personne que l'enfant décrivait. Voilà. Donc, en fait, et puis vous avez, par exemple, si vous tapez sur Google, Jenny Kukul, c'est une Anglaise, qui n'a eu de cesse que de retrouver ses enfants. Voilà, je raconte pas l'histoire parce qu'elle est un peu longue, mais si vous tapez Jenny Kukul, c'est une dame donc qui est très connue, il y a eu beaucoup d'émissions de télévision sur elle, de reportages, et qui a retrouvé ses enfants. Elle avait 7 ou 8 enfants. Et en fait, elle était décédée d'une hémorragie en ayant son dernier enfant. Et le mari était alcoolique. Et donc, elle était partie dans une angoisse, dans une détresse profonde, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle décédait et qu'elle allait laisser ses enfants à ce mari qui était indigne, qui était alcoolique. Et en fait, quand elle a eu une réincarnation très rapidement dans les dizaines d'années qui ont suivi. Et cette personne s'est rappelée justement de, parce que ça a dû être une détresse profonde pour elle, une angoisse, et elle s'est rappelée donc de cette famille qu'elle avait, et elle n'a eu de cesse, et elle l'a retrouvée. Et donc on voit cette dame qui a une cinquantaine d'années, qui a retrouvé son fils qui était plus âgé puisqu'il était né bien avant. Et donc ça a fait les couvertures des journaux et de la presse, et il y a aussi beaucoup de vidéos sur Google sur Jenny Kukul. Voilà. Donc quand on dit qu'on ne s'en souvient pas, en fait pour moi c'est un peu faux, parce que donc effectivement il y a des personnes qui s'en souviennent. Alors d'autre part, il y a le phénomène, vous savez, quand on voit quelqu'un tout d'un coup, on voit quelqu'un et puis on se dit mais j'ai l'impression d'avoir toujours connu ce monsieur ou cette dame. On a l'impression de tout savoir l'un de l'autre sans s'être parlé, alors qu'on se connaissait jamais. Donc voilà, donc je pense que nous ne sommes aujourd'hui, à l'époque, en 2013, je pense que notre vie, c'est pas la première vie que nous vivons tous sur cette planète. Nous avons déjà beaucoup vécu de vie, et je pense qu'aujourd'hui, ces lois de la réincarnation nous remettent notamment devant des individus ou à côté d'individus où nous avons quelque chose à refaire avec, peut-être des anciens ennemis ou des choses comme ça. Donc voilà, donc là, en fait, je pense donc, quand on dit qu'on ne s'en souvient pas, je pense que c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'individus qui se souviennent. Alors d'autre part, je voudrais quand même apporter une indication là-dessus, sur ce phénomène de vie antérieure et de souvenirs. Quand on regarde des enfants d'une même famille, eh bien, Vous savez, il y a toujours un jeune qui est un enfant qui est calme, qui est sage, qui étudie et puis qui voilà, qui dit jamais rien. Et puis un autre enfant de la même famille qui lui alors vraiment est toujours en train expansif, toujours en train de parler de lui, de chahuter, etc. Et on se dit mais comment que ça se fait que ces deux enfants ils viennent de la même famille, ils sont complètement opposés. Voilà, on a souvent ce cas-là, en tout cas des grandes différences dans des enfants de famille. Ce qui veut dire que on voit des tempéraments complètement différents. Ils viennent, les enfants viennent, nous venons. Nous sommes venus aussi avec un tempérament déjà excessif ou au contraire calme, introverti ou au contraire extraverti. Il y a des personnes à 2 ans, ils savent qu'ils vont devenir musiciens ou alors qu'ils vont devenir médecins. Et pourquoi tout ça? Eh bien, tout simplement parce que nous avons déjà fait beaucoup de choses dans nos vies antérieures et quand nous naissons, nous venons avec ces caractéristiques-là. Et donc, en fait, quand on dit qu'on ne se souvient pas, on se souvient tous, c'est-à-dire notre tempérament, notre désir, par exemple, d'avoir tel ou tel métier, eh bien, vient de nous. C'est quelque chose d'inconscient qui est imprimé sur l'esprit, sur l'âme, et que nous portons. Alors, je voudrais juste, pour les informaticiens, prendre une image. Vous savez, un ordinateur, on peut faire un « reset ». Alors reset, ça veut dire que je remets tout à zéro. Les mémoires sont remises à zéro. Et bien c'est un peu ce qui se passe quand nous revenons sur Terre. Notre intellect, notre cerveau, qui n'est pas du tout notre esprit, c'est complètement différent. Notre cerveau est remis à zéro. Par contre, l'ordinateur, quand vous faites un reset, quand il se remet en route, il a toujours les mêmes caractéristiques. Hein. C'est-à-dire, il a peut-être une vitesse de, c'est peut-être un processeur Intel de 2,8 GHz, et puis avec une mémoire de 2 GHz, etc. Donc il a des caractéristiques. Eh bien, l'esprit humain, quand il arrive sur cette terre, il ne se souvient pas intellectuellement, effectivement, de ce qu'il a vécu. Mais par contre, il est ce qu'il s'est construit durant ses vies antérieures.
D'accord, mais d'un autre côté, c'est peut-être mieux qu'on ne se souvienne pas de nos vies antérieures, parce que ça devrait être lourd à porter, d'année en année, je dirais, de vie en vie. À ce moment-là, ça serait peut-être un peu compliqué.
Voilà, exactement. Ne pas se souvenir de nos vies antérieures, ça fait partie de l'amour des lois de la création. Parce que quand on voit déjà, aujourd'hui, sur cette terre, quand on fait quelque chose qui nous déplaît, quand on a fait du mal à quelqu'un, quand on a blessé quelqu'un avec ses paroles, on sait plus où se mettre. Et on dit des fois de quelqu'un qu'il est accablé par le poids de ses fautes. Je parlais du poids tout à l'heure de ses fautes. Et donc, en fait, des fois, on est accablé par ce que l'on a fait. Alors, si on avait le souvenir de toutes nos vies antérieures, avec tous les gens qu'on a rencontrés et de tout ce qu'on a mal fait, entre autres, je crois qu'on serait vraiment terrassé par tout ce que nous avons effectivement mal fait. Et en plus, quand nous rencontrons quelqu'un, alors on saurait par exemple que ça c'est notre ennemi qu'on a peut-être fusillé ou je ne sais pas quoi dans une certaine vie. Et donc les relations seraient complètement perturbées, on serait accablé. En plus, quand on rencontre quelqu'un, ça n'irait, on serait pas du tout spontané. Et donc ce bandeau qui nous est mis, en fait, c'est justement pour que l'être humain retrouve sa spontanéité et qu'il puisse vivre encore, bien sûr, toujours librement. Et par contre, à nous, bien sûr, de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi en croisant chaque jour, chaque personne. C'est pour ça que nous devons essayer tout le temps de faire au mieux. Faut pas se laisser faire par les gens, mais faut pas non plus faire n'importe quoi avec n'importe qui. Parce que tout ce que l'on fait, donc de toute façon, va nous rester lié, va nous apporter un certain poids karmique si nous faisons quelque chose de mal, ou au contraire une certaine légèreté si nous faisons quelque chose de bien. Donc nous devons toujours faire attention à ce que nous faisons, et donc cette perte de la mémoire de nos vues intérieures est une protection qui est accordée à l'être humain.
D'accord. J'ai juste une petite question pour les auditeurs qui se poseraient cette question, parce que moi je n'y crois pas, mais peut-on se réincarner en animal? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de se réincarner en être humain.
Voilà, effectivement, il y a des personnes qui croient que voilà, il y a même la métempsychose où on pense qu'on est même passé à l'état de plante après minéral, enfin minéral, plante, animal, etc. Pour mon compte personnel, toujours par rapport à cet auteur Abdrushin que j'ai cité tout à l'heure, je pense pas que nous, bien sûr, nous nous réincarnons, nous ne venons pas de, nous ne sommes pas, l'esprit humain n'est pas passé déjà à l'état animal et puis après il passe en esprit humain où il peut se rétrograder. Je ne le pense pas du tout, c'est-à-dire que les genres ne se mélangent pas. Les esprits humains sont des esprits humains, les animaux sont des animaux, les plantes sont des plantes. Par contre, il y a, on peut dire, une évolution infinie qui est accordée à chaque esprit humain. C'est-à-dire que dans l'évolution, il n'y a pas de limite. Et c'est-à-dire qu'on peut se parfaire et acquérir des talents éternellement. Donc au contraire, ça c'est vraiment le but de l'être humain, c'est-à-dire de se parfaire de plus en plus, de développer au mieux ses talents.
Eh bien, c'est très passionnant tout ça. Alors, on va marquer une dernière pause dans cette émission Enquête spirituelle. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Toute l'actualité de votre association, c'est sur la page Facebook Enquête Spirituelle ou sur le site www.enquête-spirituelle.com. Enquête Spirituelle, intuition, ressenti, paranormal, énergie, destin, réincarnation, médium, voyance, radiesthésie, spiritualité, tous ces sujets et bien d'autres, c'est maintenant dans votre émission.
De retour dans cette émission Enquête spirituelle, nous terminons donc cette émission aujourd'hui sur la réincarnation avec Denis Simon. Alors donc on parlait de forcément de réincarnation, on avait abordé le sujet de se réincarner en être humain et non pas en animal, selon votre avis et le nôtre également. Et j'avais donc cette question, savoir donc pourquoi se réincarner en homme et en femme.
Alors ça c'est une question bien sûr qui nous intéresse tous. Là aussi il y a plusieurs interprétations, plusieurs théories, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent que on s'incarne en homme et puis après ma foi pour compléter on s'incarne en femme. Voilà, il y a plusieurs théories. Alors, je vais vous donner la mienne hein. La mienne qui est toujours celle de cet auteur que j'ai cité tout à l'heure. Je pense que nous sommes partis à l'état de germe d'esprit. Voilà, ça c'est important. Et donc nous avons descendu les différents plans, nous nous réincarnons plusieurs fois, tout ça pour nous développer. Et à un certain moment, donc, on devrait arrêter nos réincarnations et puis remonter dans notre plan d'origine. Alors qu'est-ce que c'est que ce plan d'origine ? C'est tout simplement un plan où il y a plein d'esprits humains. Et ce plan plein d'esprits, ça s'appelle le plan spirituel. Et ce plan spirituel, il porte le nom de paradis dans la Bible. C'est pour faire le lien un peu avec ce que moi-même j'ai appris d'ailleurs quand j'étais jeune dans mon catholicisme, parce que forcément dans les religions, on retrouve quand même heureusement des vérités. Et donc en fait, nous sommes partis à l'état de germe de ce paradis. D'ailleurs, on parle à un certain moment dans la Bible qu'on a été chassé du paradis. Eh bien, c'est pas tout à fait exact, mais disons qu'on est parti tout simplement pour venir. Comme le grain de blé. Le grain de blé, il est chassé de la main du cultivateur, il va dans la terre et à un certain moment, il doit remonter à l'état accompli. Donc voilà notre cycle, un peu résumé. Alors maintenant, homme et femme. Alors cet auteur, Abdrushin, il explique que quand nous quittons ce plan d'origine, de notre origine, le paradis, en fait, d'abord, on est très inconscient parce que c'est un peu comme un bébé qui arrive sur Terre. Voilà, nous sommes à l'état vraiment inconscient. On descend dans ces différents plans. On a des aspirations, mais inconscientes, comme un bébé a des aspirations inconscientes quand il arrive sur cette Terre. Et une des premières décisions ou un des premiers accomplissements qui se fait, c'est le choix entre homme et femme. Alors, ce choix, il se fait tout simplement par le choix de l'activité. Je m'explique un peu, j'essaye de me faire comprendre, c'est-à-dire que un esprit humain qui choisit plutôt une activité un peu plus rude, un peu plus positive, un peu plus, manier la matière, va être un esprit humain qui va s'incarner plutôt dans un corps masculin. Au contraire, un esprit humain qui va choisir une activité négative, c'est pas dans le mauvais sens, c'est au contraire positif, hein, ce négatif, c'est-à-dire une activité de réception, donc pas forcément un côté rude, mais au contraire un côté sensible, et donc ça, ce sont des esprits humains qui vont s'incarner en tant que esprit humain féminin, donc féminin, oui, donc en tant que femme. Donc en fait, déjà, ça nous fait comprendre la différence entre l'homme et la femme, la complémentarité. L'homme a plutôt un rôle de réalisateur, d'ailleurs il est plus fort dans la matière, hein, physiquement, normalement, et tandis que la femme a un côté beaucoup plus fin, beaucoup plus sensible. On parle de l'intuition féminine. Et d'ailleurs, c'est la femme qui est capable de faire le pont au moment de la naissance. Parce qu'il y a des âmes qui viennent de l'au-delà, on en a parlé tout à l'heure. Qui c'est qui fait le pont pour que la femme, pour que cette âme puisse s'incarner? C'est la femme. Et c'est donc son côté sensible, son côté féminin qui est capable de capter cette âme. Donc, voilà le côté... la femme, on peut dire, a ce côté de réception. Et en même temps, elle est capable de recevoir, on peut dire, des vibrations beaucoup plus lumineuses. Et elle a un côté, bien sûr, plutôt de la beauté. L'homme a un côté plutôt plus rude, donc lui. Et on peut dire que la femme, c'est un peu la gardienne de la flamme pour l'homme. C'est-à-dire l'homme est inspiré par la femme, parce que la femme, elle a ce côté réceptrice par rapport aux hauteurs lumineuses. Voilà, elle porte ça en elle. Alors donc... Androuchy explique que ça, c'est définitif. C'est-à-dire qu'il y a une orientation, soit homme, soit femme, qui se fait au départ de la sortie du plan spirituel, au sortie du paradis, donc dans la descente des différents plans. La première chose qui se passe, c'est déjà ce choix d'activité positive ou d'activité de réception. Et ensuite, cet esprit, il va aller vivre sur Terre, il va aller développer ses talents en fonction de ce choix. Et donc, il n'y aura... normalement, il n'y a pas la possibilité de changer. Il n'y a pas la possibilité, c'est sûr, de changer. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que dans une certaine vie, par exemple, une femme, elle peut avoir une certaine... développer une certaine manière masculine. Une femme peut... On en voit des fois. Ou alors, au contraire, un homme peut développer des manières féminines. Et à ce moment-là, on tisse des liens, comme toujours, avec nos paroles, avec nos attitudes, etc. Alors l'homme qui va tisser des liens avec le côté féminin, quand il va remonter dans l'au-delà, il va être en liaison avec tous ces fils féminins. Et effectivement, dans la prochaine réincarnation, il va peut-être se réincarner en femme. Donc ça existe, c'est-à-dire un esprit humain peut s'incarner de temps en temps en homme et en femme, mais... c'est contre nature. C'est-à-dire, cet homme, donc, qui était un homme et puis qui a tissé des fils féminins, va se réincarner en femme, mais à l'intérieur de lui, il a toujours ce côté positif qu'il a choisi. Et donc, ce côté positif va se ressentir très fortement, inconsciemment, en lui, alors qu'il a un corps de femme. Et donc, c'est là qu'on voit tous ces individus qui se sentent mal dans leur corps. Il y a des personnes qui veulent changer de sexe, etc. Voilà, on a une explication de toutes ces choses où les gens se sentent pas bien avec eux-mêmes. Et inversement, donc la femme qui construit, qui tisse des fils, au contraire, plutôt dans la masculinité, qui a un comportement masculin, risque de s'incarner dans une prochaine incarnation en tant qu'homme, mais là, elle se sentira mal avec elle-même parce qu'à l'intérieur d'elle-même, elle a ce côté féminin. Alors, elle va se sentir mal et c'est ce qui fait que elle va peut-être comprendre que justement elle doit comprendre que elle doit revenir à ce vrai côté qu'elle a choisi au départ. Donc voilà, j'en dis pas plus, je pense. Mm-hmm. Donc pour moi, on a ce côté féminin ou masculin depuis le départ, qui explique d'ailleurs, qui nous permet d'expliquer ce côté complémentaire entre les hommes et les femmes. Et puis on peut quand même malgré tout changer de devenir un homme, devenir une femme au cours de plusieurs incarnations. Mais pour moi, en tout cas, c'est un côté contre nature qui va amener des souffrances à l'individu quand on voit ces gens qui sont pas bien avec leur côté masculin ou leur côté féminin. Et puis qui vont se faire opérer, etc. On voit qu'il y a une grande souffrance à l'intérieur. Et donc, ça vient justement du fait qu'ils n'ont pas continué à vibrer dans ce choix qu'ils avaient fait à l'origine. Mais ce choix, bien sûr, peut revenir à une prochaine incarnation à condition que la personne revienne donc dans ses lois de la création.
D'accord. Alors, on parle toujours de se réincarner ou de s'incarner sur Terre. Mais est-ce qu'on peut s'incarner ou se réincarner sur d'autres planètes ? Enfin, selon nous et selon de ce qu'on a déjà entendu dans les invités, et ce serait même un peu nombriliste de le dire, vu le nombre de planètes, et on en parle d'ailleurs de plus en plus d'exoplanètes qu'ils arrivent à détecter, etc. Ils ont même détecté récemment des planètes où il y a de l'eau, etc. Ce serait un peu nombriliste de dire qu'on est les seuls dans l'univers, donc est-ce que c'est possible de se réincarner, de s'incarner sur d'autres planètes ?
Alors, c'est une vaste question, enfin, qui emmènerait à un long développement. Donc, je vais essayer de faire court. Nous sommes actuellement, l'univers fait 15 milliards d'années-lumière, hein, d'après les scientifiques. Cet univers, là aussi, cet auteur est très précis, cet auteur Abdrushin, il est très précis. Et cet univers, il l'appelle Éphèse. Éphèse, c'est un nom qui se trouve aussi dans la Bible, où il est cité plusieurs continents. Il y a Éphèse, il y a Smyrne, il y a... Enfin voilà, moi je me rappelle plus exactement des noms. On cite plusieurs parties cosmiques. Alors, là, l'univers où nous sommes, nous, aujourd'hui, porte le nom de Éphèse. Et dans chaque partie cosmique, il y a normalement une seule planète qui reçoit donc les esprits humains en cours de formation. Moi, je vous donne ce que j'en pense. Par contre, effectivement, il y a plusieurs parties cosmiques et donc il n'y a pas qu'une seule planète où on peut s'incarner. Au contraire, il y en a notamment, Abdrushin cite 7 parties cosmiques et il explique la formation de la création, etc. C'est vraiment quelque chose de formidable. Donc, par contre, dans cette partie cosmique où nous sommes, qui s'appelle Éphèse et qui est notamment ces 15 milliards d'années-lumière, la partie matérielle de cette partie, donc il n'y aurait qu'une planète qui est la Terre, où viennent s'incarner les êtres humains.
D'accord. Ce serait qu'il y a la Voie lactée, qu'il y a encore d'autres, la Voie lactée qui est la galaxie en tant que telle.
Voilà.
Il y a le système solaire où nous on est actuellement, qui est les 9 planètes.
Voilà.
Et au-dessus de la Voie lactée, il y a encore d'autres galaxies, il y a Andromède, etc. Enfin, après, il y a plein
exactement.
De choses.
Exactement. Et puis ça, c'est qu'une toute petite partie, hein, de cet univers de 15 milliards d'années-lumière. C'est quand on regarde ça, il suffit de regarder sur Internet, hein, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Mais voilà, moi je vous donne l'interprétation de l'auteur. Je pense effectivement que ça doit être la réalité. Maintenant, j'ai pas été vérifié, hein.
D'accord. Alors, pour terminer cette émission, on a encore 3-4 minutes. Une petite question que les gens vont se poser, qui est d'ailleurs très très bien, vous en avez suggéré. Comment on peut expliquer justement le fait de la réincarnation, que sur Terre, la population augmente tout le temps? Malgré qu'on décède et on meurt, est-ce qu'il y a quelque chose qui provoque ce phénomène-là, ou est-ce que c'est voulu peut-être ?
Oui, alors voilà, donc effectivement, il y a des. Là aussi, c'est une question qu'on pose quelquefois pour dire que la réincarnation n'existe probablement pas, parce que, par exemple, en 1950, on était à 2 milliards, 2 milliards et demi d'individus, et puis aujourd'hui, on est à 7 milliards. Alors, donc, on dit, ça n'existe pas la réincarnation, puisqu'on est 3 fois plus de personnes, donc d'où viendraient ces nouvelles âmes ?
Mmh.
Alors, en fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que. On parlait tout de suite de l'univers qui a 15 milliards d'années-lumière, mais ça, c'est l'univers de matière. Cet univers de matière, il est entouré d'un univers subtil qui est beaucoup plus vaste. En fait, la matière est beaucoup plus concentrée. D'ailleurs, les gens qui font des NDE le disent aussi. Et donc, les esprits humains, ils ne sont pas que sur cette Terre en ce moment, aujourd'hui même. Il y a des milliards et des milliards et des milliards d'êtres humains qui sont sur les autres plans. Je parlais tout à l'heure, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon père, et je parlais de cet au-delà, de l'au-delà, c'est-à-dire quand nous décédons, nous allons dans cet au-delà qui est constitué de très très nombreux plans, des plus lumineux aux plus sombres. Et là, il y a bien plus que 7 milliards d'esprits humains, je ne sais pas, ça j'ai pas compté, mais je pense qu'il y en a des milliards de milliards et non pas 7 milliards. Et en fait, donc, la Terre, c'est un endroit où on vient s'incarner de temps à autre. En fait, d'ailleurs, c'était Nicole Dron, hein, dans son livre 45 secondes d'éternité, où elle raconte son histoire de NDE, elle dit qu'elle comprend tout d'un coup, dans cet au-delà où elle est, quand elle vit cette NDE, elle comprend que la durée de la vie sur Terre est la même durée qu'un battement de cils par rapport à l'éternité. Et ça, je le pense réellement. Et puis, vous avez beaucoup de gens, hein, Eben Alexander, qui est un neurophysicien, qui a fait aussi une NDE très récente et très connue maintenant sur Internet, raconte ça aussi. Donc, ça veut dire que le passage sur Terre, il est quasiment d'une seconde. Et donc, on vient effectivement. Donc, tous les êtres. Donc, il peut y avoir à un certain moment 2 milliards d'êtres humains parmi ces centaines de milliards, je suppose. Et puis, à un moment, il y en a peut-être, comme aujourd'hui, mettons 7 milliards. Donc, ceci n'est pas du tout un fait contre la réincarnation. Au contraire, je veux dire, ça, c'est tout à fait logique par rapport à cette explication-là. Maintenant, pourquoi alors, aujourd'hui, pourquoi y a-t-il plus d'êtres humains qui s'incarnent ? Il y a plusieurs raisons qui sont quand même un peu longues à expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, notamment, nous sommes dans un moment particulier pour l'humanité. Vous regardez tout ce qui se passe autour de nous. On nous explique qu'il y a le dérèglement climatique, que les mers vont monter, qu'en 2050, la France sera noyée dans une grande partie au bord des côtes, etc., etc. Donc il y a des événements. On voit la montée de la violence. On voit les crises, la crise économique qui devient fantastique aussi. On voit bien qu'on est dans une période particulière. On est dans une période, on peut dire, où tout commence à être contraint. Je pense que cette période est particulière pour nous tous. Et les esprits humains, je pense, aujourd'hui, nous avons tendance à nous réincarner peut-être un peu plus du fait que on arrive à cette époque particulière où il faut que nous... Comment je veux dire, que nous sortions de cette matière. J'ai dit tout à l'heure, cette réincarnation, elle n'est pas éternelle. On doit à un certain moment sortir de ce cycle de la réincarnation en ayant acquis nos talents. Et si jamais on reste dans cette terre, on risque d'être, emmené dans cette disparition, on disait tout à l'heure, de cette partie matérielle, comme toutes les planètes, la Terre va disparaître. Bon, c'est pas demain. Et donc, en plus, on voit la montée de la violence. Alors, je pense que ça, c'est dû notamment au fait que les âmes qui s'incarnent sur Terre aujourd'hui, si nous étions des gens, d'un certain niveau spirituel, il n'y aurait... Les âmes, elles viennent de l'au-delà, et elles s'incarnent sur Terre. Si le peuple sur Terre était lumineux, il ne pourrait y avoir que des âmes lumineuses. Donc une certaine couche qui viennent s'incarner sur Terre pour continuer leur incarnation. Et les autres âmes qui sont sombres continueraient à vivre dans ces plans difficiles, tout simplement pour comprendre. Mais en fait, comme il y a une certaine dégradation de l'état d'esprit humain, quand on voit les mœurs aujourd'hui, quand on voit la violence, quand on voit vraiment, c'est terrible, on peut dire qu'aujourd'hui, on ouvre la porte à des âmes qui sont dans des plans qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus sombres aujourd'hui. Ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup plus d'âmes qui viennent sur Terre, et notamment une partie de ces âmes, bien sûr, une partie seulement, qui porte la violence. Donc voilà quelques explications. Ça demanderait un long développement, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Mais enfin, ces choses-là s'expliquent très facilement grâce au phénomène de la réincarnation.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Et justement, pour les gens qui voudront en savoir plus, on leur donnera rendez-vous en février pour la conférence justement avec vous sur la réincarnation. Et c'est quand exactement, Amy ?
Alors, c'est le dimanche 16 février à Fresnes-lès-en-Vin, donc à partir de 15h, avec Denis Simon. Comme ça, vous pourrez poser vos questions. On pourra peut-être développer les sujets qu'on n'a peut-être pas abordés aujourd'hui, ou les personnes qui n'ont peut-être pas entendu l'émission en entier et qui préfèrent vous rencontrer physiquement, eh bien, qu'elles viennent le dimanche 16 février 2014.
Voilà, ce sera avec plaisir. Je voudrais juste, j'ai parlé de cet auteur et puis de cette société d'édition, je voudrais juste donner le site internet si les personnes sont intéressées. C'est www.graal.org. Et puis aussi un site internet sur YouTube où on peut trouver gratuitement des choses. C'est Monde du Graal TV, TV comme télévision. Là, il y a des petites vidéos justement sur la réincarnation. Et puis, il y a le site de Enquête Spirituelle, effectivement, où il y a toutes les émissions qu'on a pu faire ensemble.
Tout à fait. Il y avait une émission d'ailleurs sur les NDE et une autre émission sur le destin, le karma, à réécouter également, donc avec monsieur Denis Simon. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission.
Merci beaucoup.
Et puis, merci à vous de m'avoir invité. Et puis, j'étais très heureux de faire cette émission avec vous. J'espère que les auditeurs auront profité de ces connaissances.
Très bien. Alors, quant à nous, on se retrouve là, pas la semaine prochaine, mais on pour la prochaine podcast. En tout cas, restez bien à l'écoute de cette émission et suivez-nous sur le site, donc www.enquête-spirituelle.com, et également sur notre page Facebook. Vous cherchez Enquête Spirituelle, vous allez nous trouver. On est de plus en plus, d'ailleurs, on a passé la barre des 700 sur notre page. Ça nous fait très très plaisir. On vous remercie tous ces gens-là qui nous suivaient sur Facebook et qui nous écoutaient aussi pendant l'émission radio. Rien d'autre à dire, Amy?
Non, bah d'ici là, à mon avis, les fêtes seront passées, donc d'avance, voilà. Passez de bonnes fêtes.
Tout à fait.
Et puis, bah, on se retrouve l'année prochaine avec également un nouveau magazine qui sortira début janvier.
Voilà, tout voilà. À fait. On vous souhaite à tous une excellente journée si vous écoutez en journée et une excellente soirée si vous écoutez en soirée. À très bientôt.
À bientôt.
Vous appréciez cette émission ? Denis Simon sera en conférence le dimanche 16 février dès 15h à Fresnes-lès-en-Vins en Belgique, à deux pas de la frontière française. En seconde partie, expérience médiumnique avec médium. Rendez-vous à Fresnes-lès-en-Vins, salle Magritte. Plus d'infos sur notre site www.enquête-spirituelle.com.